le magazine des Nations Unies.
Bonjour à tous, bienvenue au magazine des Nations Unies. Au sommaire, nous avons la situation sécuritaire au Nord Kivu. L'ONU assure que le Rwanda soutient militairement le M23. Des obus continuent à tomber sur Goma, faisant encore des victimes. Vous écouterez dans cette émission le nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC s'exprimer sur la situation sécuritaire dans cette province, dans sa toute première conférence de presse en RDC. Je suis particulièrement préoccupée par les violences sexuelles et par la situation socio-économique des personnes vulnérables. Ce sont les propos tenus par Flavia Pantieri, haut commissaire aux droits de l'homme, au terme d'une mission de travail d'une semaine en RDC. Flavia Pantieri est l'invitée du magazine des Nations Unies ce dimanche. 15 millions de dollars pour couvrir les besoins humanitaires des déplacés dans les sites d'accueil au Nord Kivu. Dans ce magazine, vous suivrez le chef de mission de l'OIM, Laurent Debouc. Il parle notamment de la nécessité d'identifier de nouveaux sites dans l'hypothèse où les combats persistent.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Une fois de plus, bonjour. La situation sécuritaire préoccupante au Nord Kivu a été encore au centre de la conférence hebdomadaire des Nations Unies mercredi dernier à Kinshasa. Une conférence qui a connu un intervenant de marque, Martin Kobler, le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC. C'est en fait sa première rencontre avec la presse nationale. Jean-Pierre Elali Coco revient sur les moments forts de cette conférence de presse.
La salle Alpha est archi-comble pour ses premiers face-à-face Kobler presse. Premier temps fort, petite introduction, riche en enseignement, après seulement 2 semaines à Kinshasa, ponctuées de 2 séjours à Goma. Martin Kobler se veut direct, honnête et ouvert à la presse.
Le contact avec la presse, les journaux, les rédactions, la télévision, pour moi, c'est très très important. Vous êtes le pouvoir ici, dans le pays, qui nous observe. Vous pourriez bien nous critiquer, alors c'est pas un problème, mais je voudrais vous dire que ma politique avec les entretiens de la presse, c'est toujours un contact direct basé sur l'honnêteté. Je serai toujours honnête et ouvert avec vous. Je crois que vous avez une fonction très très importante à remplir. C'est la fonction de l'observation de la MONUSCO, mais aussi de la situation politique. C'est pourquoi je suis très heureux, aussi dans le futur, individuellement ou collectivement, de vous rencontrer si souvent possible.
Deuxième temps fort, c'est la déclinaison de sa mission. Appuyer le gouvernement pour restaurer l'autorité de l'État et la paix, notamment dans la zone troublée de l'Est. Pour réussir cette mission, le chef de la MONUSCO mise sur un triple partenariat.
Le but est simple, restaurer l'autorité de l'État dans tout le territoire de la République démocratique du Congo. Et pour atteindre ce but de restauration de l'autorité de l'État, mais aussi pour avoir une solution durable, je propose un triple partenariat. Le premier partenariat, c'est le partenariat avec le peuple congolais. Nous, comme MONUSCO, sommes ici pour servir le peuple du Congo. Le peuple qui a souffert des atrocités, des cruautés, des viols en masse, en particulier dans l'Est. Nous voudrions que le peuple aussi nous aide afin de combattre ceux qui sont ses ennemis. Le deuxième partenariat, c'est le partenariat avec le gouvernement. J'ai visité le chef d'État hier, j'ai rencontré plusieurs de ministres afin de coordonner ici nos positions. C'est nécessaire que le gouvernement de la République démocratique du Congo ait involu, que nous avons cet partenariat, cette coopération très très étroite afin d'atteindre une solution paisible. Le troisième partenariat, le partenariat avec la communauté internationale, ici spécialement avec l'envoyé spécial du secrétaire général, Madame Robinson.
Une mission qui ne manque pas de priorité dans l'agenda.
Et la première priorité maintenant sur mon agenda, c'est la réforme des services de sécurité. Je crois que c'est très très important de réformer le FRDC, les forces armées, parce qu'on ne peut pas restituer l'autorité de l'État sans créer une stabilité avec des parts d'une armée qui ne peuvent pas le faire. Il faut réformer les structures. Et c'est une première tâche, aussi au sein économique, d'éliminer la corruption. Alors, vous êtes un pays riche. C'est pourquoi je suis optimiste à long terme. C'est un pays très, très riche aux ressources minérales. Mais la richesse n'atteint pas la population.
Le troisième temps fort, c'est le traditionnel jeu questions-réponses. Les journalistes posent des questions, les unes aussi intéressantes que les autres. Le centre d'intérêt reste le même. La sécurité au Nord Kivu et surtout l'apport de la brigade d'intervention. À ce sujet, le colonel Félix Basse, porte-parole militaire de la MONUSCO, rassure.
Depuis le 22 août où les combats ont réellement démarré entre les forces gouvernementales et les rebelles du M23, nous avons engagé tous les moyens et présentement la MONUSCO a engagé tous les hélicoptères d'attaque, ses moyens d'artillerie, y compris ceux de la brigade d'intervention et ceux de la brigade du Nord Kivu, pour justement appuyer l'offensive qui est actuellement en train de se mener sur les collines de Kibati et sur la colline des Trois Antennes.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
En partenariat avec le Haut Commissariat pour les Réfugiés HCR, l'Organisation Internationale pour les Migrations a mis au point un système informatisé de collecte de données sur les mouvements de déplacement interne au Nord Kivu nommé DTM, matrice de suivi de déplacement. Le IMRDC compte procéder à l'identification biométrique des déplacés. Laurent Debouc, chef de mission de cet organisme en RDC, explique l'importance de ces systèmes dans cet entretien avec Honoré Missingakala.
Laurent Debouc, bonjour.
Bonjour.
Laurent Debouc, l'une des actions conjointes avec l'OACR en cours de l'OIM dans les de la RDC concerne la situation des déplacés internes. Ils sont près de 1 million. Vous en étiez encore à l'établissement de la matrice de suivi des déplacements, ce qu'on appelle ici le DTM en Nord Kivu. C'est quoi DTM ?
Le DTM, c'est un système que notre organisation a mis en place dans le cadre des actions qu'elle mène pour le suivi des déplacements de par le monde, qui est adapté aux situations particulières, dans ce cas ici du Nord Kivu, ou en tout cas de l'Est du pays. Et ça consiste en un système informatisé de collecte de données sur le profil des déplacements qui nous permet d'analyser les besoins, de les partager avec nos partenaires et d'améliorer la réponse humanitaire nécessaire aux personnes déplacées.
Ah, donc c'est ça l'objectif des DTM.
DTM, c'est un outil d'information, effectivement, de collecte pour savoir qui a besoin de quoi, qui travaille dans quel cadre, où sont les personnes, et de planifier, puisqu'il est aussi important de savoir l'origine des personnes déplacées pour pouvoir mieux analyser les régions d'origine, voir s'il est faisable de trouver des solutions durables, entre autres dans les possibilités de retour, ou si c'est impossible, d'envisager les possibilités d'établissement dans un lieu différent, voire celui du déplacement.
Et quelle est l'étape suivante, après DTM ?
Donc la planification, l'utilisation des données qui sont partagées avec tous nos partenaires, les partenaires humanitaires qui œuvrent au bien-être des personnes déplacées pour déterminer sur base des besoins ce qui est nécessaire d'offrir aux personnes, mais également envisager à plus long terme, moyen terme, des solutions durables.
Est-ce qu'il y a une différence entre la DTM et l'opération d'identification biométrique ?
Non, c'est un système plus évolué de la DTM, donc ça fait partie intégrante du système d'information qui permet de mieux identifier les personnes et éviter un certain nombre de doublons puisqu'on se rend compte que malheureusement certaines personnes peuvent abuser du système humanitaire. Donc nous avons mis en place, comme dans certains autres pays, un mécanisme par lequel nous pouvons vérifier l'identité des personnes et savoir qu'elles sont effectivement déplacées et quel est leur lieu spécifique de déplacement.
Où en êtes-vous avec cette opération aujourd'hui ?
Donc là, la DTM fonctionne aujourd'hui, mais pas encore avec le système digital. Les mécanismes et les outils d'enregistrement digitaux sont qu'on voit d'arriver sur place, à Goma, et le mécanisme sera mis en place en dehors des 30 jours prochains.
Laurent Debouc, le porte-parole de votre organisme à Goma, a déclaré dernièrement que la ville est surpeuplée, il n'y a plus de place. Quelles sont les conséquences, d'après vous, de ce surpeuplement à Goma ?
Surpeuplement de personnes déplacées, c'est-à-dire qu'il y a une double situation, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un certain nombre de sites et de camps qui permettraient d'absorber encore quelques déplacements. Ceci dit, nous essayons d'analyser la situation, le scénario le pire, qui pourrait susciter donc un déplacement massif de personnes. Vous savez, si on se souvient des derniers déplacements, on avait enregistré plus de 5000 personnes au mois de mai qui sont déplacées, de nouveaux déplacements, 1200 plus récemment. Donc on pourrait, si les combats persistent, si la situation de déplacement augmente, avoir rapidement une difficulté d'absorption au sein des sites existants. Donc il est nécessaire d'identifier de nouveaux sites, des nouvelles possibilités, ce que les équipes avec nos partenaires, que ce soit les ONG internationales ou les autres organisations des Nations Unies, ce sur quoi ils sont en train de travailler. Donc l'identification des sites et des possibilités d'offrir les services et d'assurer l'encadrement des personnes déplacées et les orientations pour qu'elles puissent ne pas subir plus de souffrances causées par les combats.
Est-ce qu'il y a un problème de financement ?
Pour l'instant, nous avons reçu le soutien de différents gouvernements, entre autres le gouvernement américain et le gouvernement suisse. C'est également le cas de ECHO, l'agence humanitaire de l'Union européenne. Donc nous pouvons vraiment couvrir presque l'entièreté des sites de déplacement dans le Nord Kivu.
Et les besoins financiers peuvent être évalués à combien ?
Nous sommes à une évaluation des besoins de 15 millions de dollars. Nous avons actuellement identifié 9 millions. Mais les millions suivants, je dirais, répondent à une planification à moyen terme de notre réponse, c'est-à-dire l'après-crise en tant que telle, donc plus d'orientation vers des mécanismes de résilience, de retour, de réinstallation des personnes déplacées. Donc c'est prévu, c'est planifié, mais effectivement, c'est peut-être pas encore aujourd'hui le moment d'identifier des financements pour ces opérations.
Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport au partenariat avec le gouvernement, les institutions provinciales, locales, sur place, par rapport à ce problème?
Nous bénéficions d'un soutien et d'une écoute de la part du gouvernement. Nous avons des entrées. Nous coordonnons assez régulièrement nos activités avec eux. Nous essayons de les soutenir dans la mesure où ils sont aussi dépassés par la situation. C'est relativement important comme déplacement et malheureusement une situation volatile qui ne permet pas toujours au gouvernement de prendre des décisions avec le peu de moyens qu'ils ont. Mais nous réjouissons de travailler étroitement avec eux dans les différents domaines.
Si je comprends bien, l'OIM est beaucoup plus active actuellement dans l'est de la RDC, notamment au Nord Kivu.
Au Nord Kivu, en province orientale et aussi au Sud Kivu, effectivement. Donc nous avons, depuis l'année dernière, réorienté nos activités pour mieux répondre aux besoins humanitaires des personnes déplacées. Nous sommes, disons, un nouvel acteur qui permet d'augmenter la capacité du système des Nations Unies et des acteurs humanitaires dans la réponse aux personnes déplacées, particulièrement avec un focus sur les sites spontanés de déplacement.
Un dernier mot par rapport à la mission de l'OIM en ce moment ici où nous sommes en train de vivre une situation particulièrement difficile pour la RDC.
Mon mot s'adresserait à toutes les familles, à toutes les personnes qui souffrent et particulièrement celles qui ont perdu des êtres chers, à qui notre organisation voudrait présenter ses condoléances, mais aussi essayer de donner un signe d'espoir et de dire combien notre organisation, mais aussi tous ses partenaires, que ce soit des organisations nationales, le gouvernement, des organisations non gouvernementales internationales et aussi le système des Nations Unies, qui se mettent à pied d'œuvre pour assurer qu'on puisse apporter le meilleur et une solution et que rapidement nous retrouverions la paix.
Laurent Desbouc, merci.
Je vous remercie.
C'est l'heure de nos nouvelles. En bref, débattre de la question des flux illicites d'argent en provenance des pays africains. C'est l'objectif d'une réunion de la Commission économique pour l'Afrique tenue depuis mardi dernier à Kinshasa. L'ancien président sud-africain Thabo Mbeki conduit cette délégation. Il a été reçu par le Premier ministre Matata Ponyo. Les deux hommes ont échangé sur le sujet avant que le successeur de Nelson Mandela ne rencontre le président Joseph Kabila. En Ituri, le quartier Bankoko de Bunia, nous sommes en province orientale, a été doté d'une fontaine. Un ouvrage construit de la section Projet à impact rapide, KIPS, de la MONUSCO, pour un coût de près de 18 000 dollars américains. Cette fontaine va approvisionner les habitants de ce quartier et ceux des quartiers environnants en eau potable. Elle a été remise lundi dernier aux autorités locales. La stratégie nationale d'intégration du genre en RDC a été validée au terme d'un atelier de 3 jours organisé à Kinshasa. Du 28 au 30 août dernier, le ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant a initié cet atelier en partenariat avec le CNUD et ONU Femmes. Cette stratégie préconise la prise en compte de l'équité entre les hommes et les femmes dans la planification des programmes politiques, aussi bien au plan national qu'au plan provincial et local.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
La haut-commissaire adjointe aux droits de l'homme a bouclé mercredi dernier une visite de travail d'une semaine en RDC. Flavia Pantieri s'est rendue respectivement à Goma, à Kichanga au nord Kivu et à Mambasa en Ituri dans la province orientale pour évaluer la situation des droits de l'homme en général et des violences sexuelles en particulier. Elle s'est déclarée très préoccupée par les violences sexuelles et par la situation des personnes vulnérables. Avant de quitter Kinshasa, Flavia Pantieri a fait le point dans une interview accordée au magazine des Nations Unies. Elle répond aux questions de Jean-Pierre Elalie Coco.
Madame Flavia Pantieri, bonjour.
Bonjour à vous.
Aujourd'hui, vous achevez votre mission en République démocratique du Congo à Kinshasa après une tournée dans l'est du pays. Quel a été l'objet de votre mission, madame?
L'objet de ma mission ici, c'était de me rendre compte personnellement de la situation des droits humains en République démocratique du Congo en général et plus particulièrement dans l'est du pays.
Alors, vous vous êtes rendu spécialement sur le terrain à Goma, puis à Kichanga, au nord Kivu, puis aussi à Mambasa, c'est en Ituri, où particulièrement les violations des droits de l'homme sont signalées. Quel bilan faites-vous, madame, du respect des droits de l'homme dans cette partie du pays?
Le bilan est complexe, comme la situation est complexe là-bas. Il y a plusieurs aspects qui nous préoccupent beaucoup dans le bureau de la haute commissaire aux droits de l'homme, mais il y a aussi certaines activités qu'on vient d'entamer en coopération avec les autorités congolaises, avec la société civile, qui nous donnent un espoir.
Quelles sont ces activités, par exemple?
Par exemple, on est très préoccupé du fait que là où les groupes armés sont ou ont été actifs, il y a eu de nombreux cas de viols. Donc il est important d'assurer une lutte à l'impunité, de faire à même que ces femmes dont le sang de soie a été tellement violé puissent avoir justice. Et c'est bien là qu'on travaille conjointement avec des ONG, par exemple, pour qu'ils puissent avoir une assistance médicale et des services, mais aussi en ce qui concerne le fait qu'il faut faire justice. Donc, il s'agit là de faire des investigations, du monitoring, pour pouvoir documenter ce qui s'est passé, mais aussi de leur donner l'opportunité de s'adresser à la justice. Or, ces femmes qui habitent parfois dans des communautés très éloignées du centre où il y a des tribunaux se trouvent dans l'impossibilité de se déplacer, soit pour des raisons culturelles, sociales et économiques. Et donc, il est important, comme ils n'arrivent pas à aller eux-mêmes à chercher la justice, que la justice aille les chercher. Et donc, avec les autorités du gouvernement, on a introduit ce programme pour conduire des audiences foraines qui permet d'écouter les témoins, les victimes, sur les lieux mêmes où ces événements se sont passés, pour les aider à avoir justice.
Il y a aussi des auteurs de ces violations de l'homme, et on a toujours décrié l'impunité. On parle souvent de leur traduction au niveau des instances judiciaires internationales. Et qu'est-ce que vous en dites?
Je décris l'impunité de la manière la plus forte. Moi aussi, notre bureau est très préoccupé par ça. C'est pour cela qu'il est essentiel de renforcer le système de gestion de justice de la part des autorités congolaises. Il faut qu'on puisse mener à terme les enquêtes qu'on entame. Il n'est pas suffisant de commencer, il faut arriver à clôturer les dossiers. Et ça, c'est important aussi parce que jusqu'à ce que quelqu'un n'a pas été jugé coupable, on doit le considérer innocent. Et la carcération préventive, la détention préventive, si elle est trop étendue dans le temps, devient elle-même une violation d'un droit humain. Il est important que justice soit faite, mais justice retardée est justice niée.
Mais vous connaissez aussi qu'en République démocratique du Congo, la justice congolaise connaît des problèmes. Est-ce que le Haut Commissariat aux droits de l'homme peut y apporter quelque chose?
Bien sûr que je réalise les difficultés d'un système judiciaire qui se trouve très a étendu sur un pays tellement large, tellement complexe, il est important qu'on travaille quand même à une réforme du secteur. On a une coopération très étroite et excellente, il faut le dire, avec le ministère et la ministre de Justice et Droits Humains pour pouvoir renforcer la capacité d'enquête, de monitoring, des poursuites judiciaires, de conduite des procès et aussi l'aspect pénitentiaire.
Oui, Madame, parlons de vous-même. Vous avez été nommée haut commissaire adjointe en mars dernier par le secrétaire général des Nations Unies. Vous apportez à ce poste une expérience de 30 ans au sein du système des Nations Unies. Quelles sont vos priorités dans ces domaines importants des droits de l'homme, Madame?
Il faut que j'avoue que l'opportunité dont je suis très fière, et c'est un honneur pour moi, de servir le bureau de la haute commissaire aux droits de l'homme, représente pour moi le comble d'une carrière qui a été toujours inspirée par les valeurs de l'ONU. Mmh. Et ces valeurs se basent sur le respect de la personne humaine, la protection de ses droits. Et donc, je trouve que le programme, le bureau de la haute commissaire aux droits humains représente vraiment un pilier essentiel pour tout le système. Quand on parle de l'importance des droits humains, il devient un élément qui ne peut manquer pour la paix, pour le développement. Et sans le respect des droits, il ne peut pas y avoir de la paix durable et le développement ne peut pas être équitatif.
Oui.
C'est pour cela qu'il faut que ces trois piliers se renforcent mutuellement.
Tout à l'heure, je disais que vous avez été sur le terrain. Vous avez rencontré les acteurs de la société civile, les autorités locales et même les victimes. Quel message adressez-vous à la population congolaise dans cette période particulièrement difficile en raison de la reprise des hostilités à l'est de la République démocratique du Congo?
Je voudrais dire seulement une chose à la population congolaise. J'ai eu l'expérience directe personnellement de voir la force, le potentiel de cette population, de ce pays. Donc je pars consciente des difficultés, mais en même temps optimiste. Je crois que vraiment, ensemble, on va pouvoir faire une différence, arriver à avoir la paix, le développement, la justice dans ce pays. C'est ça que je souhaite à la population congolaise.
En tout cas, merci madame. C'est par ces mots que nous terminons notre entretien et je vous remercie.
Merci à vous.
Arrivé lundi dernier de 38 enfants associés aux combattants Bakata Katanga à Kiambi, à une centaine de kilomètres du territoire de Manono, dans la province du Katanga, l'ONG Réconfort a admis ces enfants dans des centres de transit et d'orientation organisés sur place. Les autorités locales se disent encouragées par la sortie de cette nouvelle vague d'enfants issus des groupes armés. Notre nouvelle de province est avec François-Xavier Mibé.
Sur les 38 enfants, 12 sont des filles. Ils viennent de quitter les rangs d'une branche de Katakatanga que dirige un certain Gérard Yorgo Kisimba dans les secteurs de Kiambi. Ils arrivent ainsi à gonfler le nombre d'enfants avec d'autres admis auparavant dans deux centres de transit et d'orientation montés à Manono Centre. Les enfants filles sont séparés des garçons, ce qui porte à 85, dont 25 filles, le nombre total d'enfants associés et sortis en un mois des groupes armés dans la zone. L'ONG Réconfort bénéficie d'un appui de l'UNICEF et des éléments effarés d'essai pour obtenir la sortie en douceur des enfants des groupes armés. Une activité qui a été précédée par des campagnes de sensibilisation entreprises par la MONUSCO à travers la section de protection de l'enfant dans la région. Le commandant du 621e bataillon autonome des FRDC Manono annonce l'arrivée dans les heures qui suivent des dizaines d'autres enfants issus de groupes armés. Kalemi, François-Xavier Mibé, Radio Kapi.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je m'appelle Madame Guylaine Matindi Betakwaou. Je suis mariée et mère de trois enfants, dont deux filles et un garçon, parmi lesquels il y a des jumeaux. J'ai commencé mes études primaires à l'école primaire de Kinshasa, à Matete, où j'ai terminé avec mon diplôme de certificat de l'étude primaire. J'ai fait les études secondaires et humanitaires dans la province orientale à Kisangani, dans l'Institut dans l'Institut de formation des cadres des enseignements, où j'ai terminé avec mon diplôme de diplômé en biologie chimie. J'ai commencé les études universitaires à l'IFA Yangambi, où j'ai fait le premier graduat. J'ai continué à l'UNIKIN, dans la faculté des sciences agronomiques, le deuxième graduat jusqu'en deuxième grade, et j'ai obtenu le diplôme d'ingénieur en agroéconomie. Mon parcours à la FAO, à l'université de Kinshasa, nous avons été au nombre de, au total de 100 candidats, parmi lesquels il y avait 5 femmes. Nous avons tous terminé, ensemble avec les garçons. C'était quand même la première promotion de l'UNIKIN en agronomie. Et j'ai été parmi les 5 qui ont été nominés diplômés d'ingénieur agroéconomiste. Mon parcours à la FAO, je suis actuellement dans l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, où je exerce au sein de l'unité programme au niveau de l'équipe évaluation de besoins. Je suis à chargée du genre et de la nutrition. Bon, en tant qu'employée à la FAO, j'arrive au bureau vers 7h30. Je commence par les salutations matinales avec les collègues. J'entre au bureau, je check mes mails, j'ouvre l'ordinateur, je vois les différents mails pour actualiser mon agenda du jour et les différentes tâches que je dois accomplir au courant de la journée. Principalement, j'arrange l'agenda pour différentes réunions où je représente la FAO au niveau du genre et de la nutrition. Avec les collègues, nous travaillons leur renforcement de capacité avec les équipes de projet et les partenaires. Nous mettons à leur disposition tous les matériels nécessaires qui permettent à ceux qui puissent renforcer leur capacité en termes de genre pour que l'analyse genre soit transversale dans tous nos projets. Et au niveau du programme, nous avons des réunions où nous animons par rapport à l'analyse de projet pour savoir comment nous pouvons intégrer les indicateurs genre pour la prise en compte de l'égalité homme-femme et l'autonomisation des femmes à travers nos différents projets. Avant l'agence, j'ai été fraîchement après l'université. J'étais engagée en tant que chargée des études et des suivis de projets à l'agence de développement et de services. Et j'ai évolué là-bas pendant 5 ans. Après, j'ai été expert chargée de questions agroéconomie au sein du projet conjoint FAO et Service National d'Appui à l'Horticulture Urbaine et Périurbaine, le SENAUP, au sein du développement rural, dans le bureau de Kinshasa, où nous avons travaillé en appuyant les femmes, principalement les organisations paysannes, les maraîchères et les maraîchers, dans la structuration et l'organisation des associations et dans l'octroi de différents crédits avec l'ONG ADECOM. Mon temps libre, après le service, je fais les devoirs des enfants. Je corrige avec eux leurs devoirs, je m'occupe de mon mari et donc je passe le temps aussi à la prière et donc comme je suis centre de l'Éternel. Je chante à le choral le dimanche et les répétitions sont au courant des jours pairs. Je savoure la cuisine congolaise, particulièrement la cuisine du Bas-Congo avec le mfumbo, le mountambu et la chikwal. Pour le sport, j'aime bien le basketball. Je suis aussi une fan de tennis. Je suis les grands slams tout le temps à la télé. Projet d'avenir, je compte faire un master en genre et développement et en gestion de projet et faire une grande renommée en genre parce que nous savons que c'est pour le développement. Et avec mon mari, nous avons un élevage de poules pondeuses et nous comptons en faire une grande entreprise. Merci.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Patrick Mbanga, qu'est-ce qui se passe réellement dans le cas de Mugunga concernant la prise en charge des déplacés et quelques réfugiés? Si Ocha pourrait nous faire un peu allusion à cela.
La réponse en cours, c'est-à-dire qu'effectivement, on a eu, avec ces derniers événements, on a dû quelque peu sursoir ou suspendre à certaines activités, mais les humanitaires restent présents dans le Nord Kivu. Les soins primaires dont ces personnes en ont besoin, que ce soit de l'eau, que ce soit des médicaments, que ce soit de la nourriture. Il y a le PAM qui est en ce moment en train de faire une distribution, pas à Mugunga 3 de façon explicite, mais dans la province, juste pour dire que voilà, l'aide humanitaire est en cours et on continue de rester sur le terrain, bien que les conditions de travail soient assez difficiles.
Le
magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Un rendez-vous la semaine prochaine, le 8 septembre, c'est la journée internationale de l'alphabétisation, une journée qui intéresse plus particulièrement une des agences du système des Nations Unies. Vous vous en doutez, il s'agit de l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Merci d'avoir suivi cette émission présentée par Mila Kimbuni avec l'assistance technique de Willem Lungamba du côté de la régie. À la supervision de cette émission, Nicole Ngaka, à la coordination, Jean-Pierre Elali Coco et au reportage, Honoré Missenga Kalala. Une émission à écouter à tout moment et à commenter sur notre site www.radiocapi.net. Vous pouvez nous faire parvenir toutes vos questions, vos préoccupations et même les informations éventuelles en nous appelant au 082 30 76 630 ou écrivez-nous à notre adresse que vous connaissez si bien, maguen@radiocapi.net. Nous avons hâte de vous retrouver le dimanche prochain. Entre-temps, bonne rentrée scolaire aux élèves et excellente journée dominicale à tous.